Les cours du Collège de France, État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités, Alain Supiot.
Bien, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Pour des raisons de disponibilité de salle, la date a dû être changée, le cours ayant été avancé à l'automne, l'amphi n'était pas libre le jeudi, c'est la raison pour laquelle le cours a lieu le mercredi. Donc nous allons poursuivre cette année l'étude entamée l'année dernière de la justice sociale internationale. J'ai mis suite en principe, c'est suite et fin, même si ce sujet, la justice sociale internationale, ne connaîtra pas de fin à brève échéance, on peut le penser. J'en profite pour vous donner une information concernant le séminaire de cette année. Ce séminaire ne prendra pas, contrairement aux années précédentes, la forme d'un colloque, mais celle de quatre demi-journées au cours desquelles j'ai invité un certain nombre de collègues à parler des questions de solidarité, de responsabilité solidaire. C'est un sujet qui se situe dans le prolongement du séminaire de l'année dernière, qui avait pris la forme donc d'un colloque intitulé « Prendre la responsabilité au sérieux ». Et l'une des questions fortes identifiées au moment de ce colloque est le renouveau des questions de responsabilité dans un contexte où les formes d'organisation des États et des entreprises se sont transformées. Vous le savez, le droit social moderne a vu le jour à la fin du XIXe siècle dans le contexte d'une véritable révolution du droit de la responsabilité avec l'invention de ce qu'on a appelé la responsabilité du fait des choses, la responsabilité des risques. C'était du fait des machines dangereuses qui sont apparues au XIXe. Et c'est ce qui a fourni les bases juridiques de l'État social, notamment au travers des lois sur les accidents du travail. Il y a des raisons de penser aujourd'hui que la mutation de l'État social dépendra de notre capacité à également repenser les mécanismes de solidarité. Or, ce qui est propre aux nouvelles formes d'organisation, notamment des entreprises, c'est qu'elles ne sont plus des ensembles intégrés, clairement identifiables, mais qu'elles se déploient sur des chaînes de production internationales et qu'à l'intérieur de ces chaînes, le problème est qu'il est possible d'exercer un pouvoir économique sans avoir à répondre des décisions économiques que l'on prend. Donc, il y a un problème de reconnexion du pouvoir et de la responsabilité, mais dans un mode qui n'attribue pas toute la responsabilité nécessairement à la tête du réseau. Si vous vous rappelez de l'affaire du Rana Plaza, dont nous avions parlé il y a 2 ans, il y avait des responsabilités indiscutables de l'exploitant local au Bangladesh, qui étaient des criminels. Enfin, d'ailleurs, ils ont été mis en prison tout de même. Mais il y avait aussi une responsabilité des donneurs d'ordre qui choisissaient de travailler avec ces gens-là. Donc le problème qui se pose aujourd'hui, c'est comment on invente des mécanismes qui permettent de réindexer le niveau de responsabilité avec le niveau de pouvoir exercé. Alors, c'est une exploration qui sera faite lors de ce séminaire en faisant une sorte d'état des lieux par discipline, puisque c'est quelque chose qui concerne aussi bien le droit de l'environnement, le droit civil, le droit des contrats, le droit social. Et on essaiera de croiser avec quelques points de vue étrangers, mais ce sera principalement des collègues français qui interviendront. Donc, ce séminaire aura lieu en mars. Et, pour le cours, je fais un effort pour rappeler les bases, quelquefois élémentaires, juridiques, pour que vous puissiez le suivre. Pour le séminaire, je serai obligé de supposer connu, disons, des bases juridiques minimales pour le suivre, sans que ça soit dans une technicité extraordinaire, mais je ne pourrais pas demander à mes collègues de refaire le même type d'effort pédagogique que je fais moi-même. Et donc, éventuellement, ceux qui seraient intéressés, j'espère que vous serez nombreux à suivre ce séminaire, qui donnera lieu à chaque fois une discussion à trois. C'est l'avantage par rapport à la formule du colloque, c'est que chaque collègue aura beaucoup plus de temps pour s'exprimer et qu'on pourra avoir un entretien croisé ensuite. Comme c'est dans le prolongement du colloque de l'année dernière, de juin dernier, celui-ci fait l'objet d'une publication qui doit paraître la semaine prochaine. Donc, je vous tiens toujours informé des publications issues des travaux de la chaire, puisque, pour le cours, puisqu'il n'est pas enregistré, puis parce que c'est la recherche en train de se faire dans les cours, mais il y a un moment où elle est faite. Je tiens toujours à vous en informer. Donc ce livre doit paraître la semaine prochaine. Nous avons réussi, grâce au PUF, à le sortir très rapidement, puisque l'idée est qu'il puisse être à disposition au moment de la COP21, puisque ces questions de responsabilité concernent, telles qu'elles sont envisagées dans cet ouvrage, aussi bien les questions sociales, environnementales que financières. À ce sujet, et c'est une dernière information liminaire que je voulais vous donner, j'ai invité, c'est pas moi, l'Assemblée des professeurs du Collège a invité pour une série de 4 conférences Madame Janice Sarah, qui est professeure à l'Université de Colombie-Britannique dans l'Ouest canadien et qui est une des meilleures spécialistes justement des questions de droit financier. Donc elle fera 4 conférences à partir de la semaine prochaine qui auront lieu le même jour que mon cours en fin d'après-midi à 17h. Je crois que c'est salle 5 de mémoire. Enfin, il doit y avoir une affiche pour vous informer. Donc l'objet de ces 4 conférences sera de vous présenter que s'est-il passé en matière de régulation financière depuis l'implosion des marchés financiers de 2008. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Quoi? Est-ce que c'est suffisamment sérieux? Vous trouverez dans cet ouvrage d'ailleurs la contribution de Mme Janice Sarah qui est particulièrement intéressante, où elle montre comment la préservation, enfin l'assurance contre les risques écologiques majeurs est devenue une nouvelle table de jeu pour les investisseurs financiers. C'est intéressant. Donc, j'espère que vous serez un certain nombre à vous intéresser à ces cours, parce qu'en plus, elle les fait en français, ce qui est un investissement de sa part. Et donc, je pourrai assister à 3 de ces 4 cours, et j'espère qu'on aura le plaisir de se retrouver aussi dans ce contexte. Donc, nous allons poursuivre le cours de l'année dernière, et je vais commencer par un bref résumé qui va progressivement, par un fondu enchaîné, nous entraîner vers la suite du cours pour ceux qui n'avaient pas pu le suivre. Alors, je vous rappelle que nous sommes partis de cette situation paradoxale qui est celle de la justice sociale dans le monde actuel, puisque d'un côté, elle retrouve une actualité brûlante à l'échelle internationale avec l'affaissement de la capacité de nombreux États d'assurer le bien-être de leur population et les conséquences qui en découlent, c'est-à-dire l'explosion des inégalités de revenus, le retour de la pauvreté et des migrations de masse qui sont liées à l'économie. Je mets de côté, même s'il y aurait des rapports à faire, avec le problème des réfugiés pour les pays en guerre. Mais donc cette question est d'une brûlante actualité, mais dans le même temps, elle a disparu des priorités politiques, tant à l'échelon des gouvernements que de l'Union européenne ou des institutions internationales. Donc pour aborder ce paradoxe, nous avons commencé par retracer à grands traits la genèse de l'idée de justice sociale depuis les écrits juridiques fondateurs du Digeste, nous allons reparler du Digeste ce matin d'ailleurs, jusqu'à sa théorisation au XIXe siècle, en passant par les écrits des médiévaux. Donc on avait commencé par faire cette mise en perspective historique. Ensuite, nous avions rappelé la tentative de renouvellement de la notion qui s'observe depuis la fin du XXe siècle, avec la montée en puissance d'une justice sociale recognitive qui met l'accent plus sur la reconnaissance des personnes, les discriminations et qui a pour objet l'égale reconnaissance des identités plutôt que celle des richesses. Ces repères conceptuels, une fois posés, nous sommes revenus sur les conditions dans lesquelles ont été adoptées les premières conventions internationales du travail à Berne en 1906 et sur le mouvement d'idées qui les avait portées tout au long du XIXe siècle. La Première Guerre mondiale a suspendu le mouvement ainsi engagé, en même temps qu'elle a contribué à en précipiter le cours, aussitôt la paix revenue, avec la création en 1919 donc de la doyenne des organisations internationales, qui est l'Organisation internationale du travail, par le traité de Versailles. Et c'est dans ce traité que le concept moderne de justice sociale a pour la première fois été consacré en droit international, en tête du préambule de la Constitution de l'OIT. Et le lien établi par cette Constitution entre la justice sociale et la paix entre les nations a été réaffirmé à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans la Déclaration de Philadelphie de 1944, selon laquelle, je vous le rappelle, l'expérience a pleinement démontré le bien fondé de la déclaration contenue dans la Constitution de l'OIT, d'après laquelle une paix durable ne peut être établie que sur la base de la justice sociale. Nous nous sommes arrêtés un certain temps à cette référence à l'expérience historique comme base de l'évolution des institutions. C'est un point qui me tient beaucoup à cœur, sur lequel peut-être j'aurai à revenir dans un cours d'une année prochaine. La différence des sciences, qu'on peut appeler sciences de l'humain, par rapport aux sciences de la nature, c'est que dans les sciences de la nature, le rapport au réel passe par l'expérimentation, donc les sciences expérimentales, et si possible reproductibles, ce qui est la règle en physique, ce qui est déjà beaucoup plus difficile à faire en biologie, parce que les organismes vivants ont une histoire. Dans le cas des sciences humaines, elles se trouvent sous l'ombre portée maintenant du modèle des sciences exactes, ce qui les conduit aussi à essayer de transposer l'expérimentation, mais l'expérimentation sur les êtres humains ne va pas sans poser des problèmes. Dans le domaine juridique, j'entends de plus en plus ce type de proposition visant à soumettre une partie de la population à tel type de règles pour voir ce que ça donne, etc. Donc ça consiste à traiter au fond les êtres humains un peu comme on traite des rats de laboratoire. L'équivalent, enfin ce qui en réalité devrait être considéré avec le même soin que l'expérimentation en sciences humaines, en sciences de la nature, dans le cas des sciences humaines, c'est ce que Vico, dont nous avons parlé, Jean-Baptiste Vico, pouvait appeler l'expérience historique. Donc, l'être humain accède à la connaissance des faits humains par les méthodes empruntées aux sciences exactes de la mise devant soi objective de l'homme et de la société, où on le regarde alors effectivement comme une chose. C'est une voie d'accès à la connaissance extrêmement précieuse, qu'il ne s'agit pas de discuter, mais il y a une autre voie d'accès qui est la connaissance intérieure. Et si je peux prendre un exemple qui concerne l'objet de ce cours, si on parle de la pauvreté, vous avez des économistes ou des juristes qui sont des grands spécialistes du droit de la pauvreté ou de l'économie de la pauvreté, ils savent tout sur la pauvreté, mais le jour où ils se retrouvent eux-mêmes à mendier sur un trottoir de Paris, ils accèdent à une connaissance de la pauvreté qui est d'une autre ordre et dont on ne peut pas dire qu'elle n'a pas de valeur d'un point de vue justement de la connaissance. Et au fond, lorsque la déclaration de Philadelphie se référait à l'expérience, c'est l'expérience de la guerre. La guerre nous apprend que, nous avons vu que, et les hommes et les femmes qui ont, et c'est ensuite la DUDH, c'est la veuve de Roosevelt, qui ont joué un rôle important, portaient en eux cette expérience historique. Donc voilà, j'y reviens parce que on a le sentiment aujourd'hui que cette nécessité d'adosser les institutions internationales à l'expérience est un peu perdue de vue, notamment au travers d'un concept qui est le concept de nation building, où on envisage à ce moment-là la société comme un jeu de mécanos, justement, posé devant soi, et les tentatives de nation building auxquelles nous avons assisté depuis une quinzaine d'années se sont soldées par des échecs assez sanglants. Donc, l'appel à une paix fondée sur la justice sociale n'a en réalité guère été suivi d'effets dans l'entre-deux-guerres. La création de l'OIT n'a pas suffi à éviter les désastres économiques et politiques engendrés par l'impéritie sociale, dont le point d'orgue fut la crise de 1929 et le basculement de nombreux pays dans des régimes dictatoriaux et bellicistes. Alors, il est vrai que de nombreux choix opérés à Versailles ont privé dès l'origine l'OIT de mener véritablement sa mission à bien. Nous avions vu comment les États-Unis se sont opposés aux propositions européennes qui visaient à rendre les conventions adoptées à la majorité des deux tiers par la Conférence internationale du travail immédiatement applicables dans les ordres juridiques internes. Et le résultat de cette opposition est que les normes internationales du travail, jusqu'à nos jours, qui sont élaborées au sein de l'OIT, et qui devraient être donc le cadre juridique international de la justice sociale, font en réalité l'objet de ce qu'on peut appeler un self-service normatif, chaque État demeurant libre du choix de celle auquel il se soumettra pour n'en ratifier qu'un tout petit nombre. Alors, depuis le tournant néolibéral des années 70-80 du siècle, du XXe siècle, l'OIT a usé, je vous le rappelle, de deux méthodes pour surmonter cette faiblesse constitutive, ou plutôt pour tenter de la surmonter. La première a consisté à hiérarchiser ces conventions pour inciter les États à ratifier celles qu'elle a dès lors qualifiées de fondamentales ou prioritaires. Et la seconde méthode, complémentaire de ce repliement sur des conventions fondamentales, a consisté à recourir à ce qu'on appelle la « soft law », un droit mou. Et cette soft law a pris la forme de deux déclarations sans effet juridique contraignant. Une déclaration, la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998, puis la déclaration sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008. L'idée de base de ces déclarations, qui est une idée intéressante, consiste à adosser la mission normative de l'OIT à sa constitution plutôt que sur les conventions qui font l'objet du self-service, en disant aux États, du seul fait que vous êtes membre de l'OIT, vous êtes tenu à un certain nombre d'obligations. Et ainsi, on souhaiterait lui rendre une universalité qui, faute de ratification suffisante, fait défaut à la plupart des conventions internationales du travail. Mais une autre source de faiblesse s'est révélée durant la même période. L'OIT n'a pas, selon le vocabulaire carnassier de mes collègues de droit international, ils disent qu'il n'a pas de dents, de crocs, on pourrait même dire, c'est-à-dire de moyens de sanction suffisamment dissuasifs pour les États qui ne respectent pas ces normes. Elle ne dispose ni d'un tribunal, ni d'un système de sanctions comparable à celui de l'Organisation mondiale du commerce qui permettrait de contraindre les États à prendre au sérieux leurs responsabilités sociales. Du reste, il faut remarquer que l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, est parfaitement consciente qu'elle tire l'essentiel de son poids politique de sa fonction de juge. Telle qu'elle est, cette fonction lui a été reconnue par le mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends qui se trouve en annexe numéro 2 des accords de Marrakech de 1994 qui ont créé l'OIT. Elle l'explique sans détour sur son site internet où l'on peut lire que le règlement des différends constitue la clé de voûte du système commercial multilatéral et la contribution sans précédent de l'OMC à la stabilité de l'économie mondiale. Sans un moyen de régler les différends, le système fondé sur les règles ne serait d'aucune utilité, car les règles ne pourraient pas être appliquées. La procédure de l'OMC consacre le règne du droit, évidemment en anglais c'est « rule of law », et permet de rendre le système commercial plus sûr et plus prévisible. Donc l'OMC met en avant comme l'élément central de son rôle au niveau mondial le fait qu'elle a une fonction de juge et c'est ce qui lui donne la possibilité d'être le rouleur du commerce international. Et si vous lisez cette déclaration a contrario, on serait tenté de dire que les normes de l'OIT ne sont d'aucune utilité puisque il n'y a pas en l'espèce de juge. Et c'est encore plus vrai si l'on pense aux questions environnementales, où là, il n'y a même pas une organisation internationale qui soit en charge des questions d'environnement. Donc, c'est une des données évidentes dans l'ordre juridique international contemporain. C'est cette dissociation, d'un ordre juridique du commerce qui répond aux critères de la juridicité, avec des ordres juridiques en matière sociale et environnementale qui, eux, en s'en trouvent dépourvus. Et non seulement ils s'en trouvent dépourvus, mais dans le cas de l'OIT, elle est entrée depuis 2012 dans une crise dont je vous ai, sur laquelle on s'est assez longuement arrêté, puisque depuis 2012, l'Organisation internationale des employeurs dénie à la commission d'experts qui est chargée d'évaluer le respect par les États des conventions qu'ils ont ratifiées, lui dénie tout pouvoir d'interprétation. Alors, ce litige est né à propos du droit de grève, parce qu'il y a une offensive générale contre le droit de grève, à la fois au plan des droits internes et au plan des droits internationaux. Mais le cadre général de la critique consiste à dire que l'OIT n'a pas de tribunal, et c'est par un abus de langage que la commission d'experts, qui fonctionne depuis les années 20, s'est attribué un pouvoir d'interprétation. Critique qui n'est pas sans fondement, puisque effectivement cette commission d'experts n'est pas un tribunal, elle n'est pas soumise au principe du contradictoire, ses décisions n'ont pas l'autorité de la chose jugée, mais critique qui n'est pas non plus sans hypocrisie, puisque la même organisation des employeurs s'est refusée aux deux solutions qui permettaient de trancher le litige sur l'interprétation de la convention en question. C'est-à-dire soit la saisine de la Cour de justice internationale, soit la création d'un tribunal au sein de l'OIT, qui est prévu par sa constitution, c'est l'article 37, alinéa 2, qui prévoyait la création d'un tribunal, l'organisation patronale a refusé ces deux solutions. D'ailleurs, apparemment, il n'y a pas grand monde en veut. Or, avec cette crise et à quelques années de son centenaire, l'OIT se trouve ainsi à une croisée des chemins. Ou bien elle en sortira par le haut, en se dotant d'un dispositif juridictionnel qui occupera la place demeurée vacante de juge social international, ou bien elle en sortira par le bas, en livrant l'interprétation du droit international du travail à des arrangements négociés, fluctuant au gré des rapports de force entre ces différentes composantes. Le risque est d'autant plus grand que, dans le cas même de l'OMC que j'ai évoqué tout à l'heure, on voit bien qu'en matière commerciale, la tendance est maintenant, pour contourner le système multilatéral, au développement d'accords bilatéraux ou intercontinentaux du type des traités transatlantiques ou transpacifiques sur lesquels nous allons pouvoir revenir cette année. Donc, on ne peut se cacher que la disqualification du droit international du travail en un droit mou, dont le sens et la portée varient en fonction des calculs d'intérêt, que cette disqualification va dans le sens général du renversement du règne de la loi au profit d'une gouvernance par les nombres, telle que nous avons pu l'analyser pendant au cours des deux, pas la dernière année, mais les deux années d'avant. Alors, après avoir opéré cet état des lieux de l'apport de la Première Guerre mondiale, nous sommes intéressés à celui de la Seconde. Comme l'avait fait le traité de Versailles, le préambule de la Charte des Nations Unies associe les idées de justice sociale internationale et de progrès social, entendues comme condition de l'extension de la liberté. Et sur cette base, les dispositions de la Charte des Nations Unies, donc les dispositions en vigueur, c'est celle des chapitres 9 et 10, visent à créer, je cite, les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires au maintien de la paix. Bon, c'est donc l'article 55 de la Charte des Nations Unies. Je le souligne, la notion de stabilité. En effet, ce texte, au sortir de la guerre, donc, réaffirme une conception classique d'un ordre juridique stable comme condition d'un régime pacifique. Autrement dit, la fonction première du droit des institutions, c'est de fournir un cadre stable à la vie en société, aussi bien au plan interne qu'au plan international. Et c'est tout le contraire que la vision qui était portée par les régimes totalitaires, au contraire, où le droit n'étant qu'un instrument au service d'un parti incarnant des lois présumées scientifiques, le droit n'est dépouillé de toute stabilité. Il doit accompagner le mouvement en avant exercé par le parti. Donc, à la fin de la guerre, on revient à l'idée que l'une des vertus premières de droit et institution, c'est d'assurer les êtres humains de cadres stables et fiables. Bon. On peut penser, là aussi, que ces leçons ont été aujourd'hui largement oubliées. Mais nous allons y revenir à propos du droit du travail. Quant à la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle a affirmé en 1948 l'indivisibilité des droits économiques et sociaux qu'elle proclamait pour la première fois, et des droits civils et politiques. Mais cette indivisibilité a très rapidement été trahie des deux côtés du rideau de fer. Mais je vois que l'administration du collège, toujours prévoyante, a mis le lubrifiant nécessaire. Excusez-moi. En terre communiste régnait donc la conception instrumentale du droit de ce que Harold Berman appelle le rule by law et non le rule of laws, c'est-à-dire cette conception d'un droit comme instrument, en sorte que les droits ne sont invocables que dans la mesure où ils sont conformes à ce que, aujourd'hui encore, la Constitution de la Chine nomme l'ordre économique de la société. Vous ne pouvez opposer un droit que s'il est conforme à l'ordre économique de la société. Donc ça disqualifie évidemment les ambitions de la DUDH. En terre capitaliste, beaucoup n'ont jamais admis la réelle juridicité des droits économiques, sociaux et culturels. Ces droits ne seraient, selon un fort courant doctrinal, que de faux droits. J'ai cité un certain nombre d'auteurs français qui développent cette analyse. Ce seraient des faux droits d'inspiration marxiste et en tout cas des créances sur l'État dont ils encourageraient l'intervention, alors que les droits civils et politiques seraient au contraire des droits de protection contre les empiétements de l'État sur les libertés individuelles. Donc on a très vite vu réapparaître l'opposition entre des droits dits de première génération qui mériteraient le terme de droit, puis des droits économiques et sociaux qui seraient simplement des espèces de proclamations politiques sans conséquences juridiques. Cette opposition est devenue un lieu commun dès les années 50. Mais, c'était le tout dernier cours, je pense, nous avons vu pourquoi, selon moi, cette présentation est doublement inexacte. Elle est inexacte tout d'abord parce qu'appliquer le qualificatif de marxiste aux droits économiques et sociaux témoigne non simplement d'une incompréhension du marxisme qui visait le dépérissement du droit et de l'État, mais aussi une étonnante ignorance de la jeunesse historique des droits sociaux. Ceux-ci ont commencé à être affirmés dès 1919 dans la constitution de l'OIT, constitution à laquelle l'URSS n'a adhéré qu'en 1934 pour en être exclu dès 1939. La reformulation à laquelle ils ont donné lieu à la fin de la Seconde Guerre mondiale n'a pas davantage répondu à une quelconque inspiration marxiste, mais bien plutôt aux leçons que le président Franklin Roosevelt avait tirées de la crise traversée par le capitalisme en 1929. Et nous sommes revenus assez longuement, nous avons même entendu la voix de Roosevelt dans cet amphithéâtre, sur cette période et sur le lien qu'il a établi entre démocratie et justice sociale dans ses très fameux discours des quatre libertés et le discours des Second Bill of Rights. Et pour justifier ce lien, Roosevelt avait de la culture juridique. Il avait de la culture et de la culture juridique. Alors, c'est très important pour les dirigeants. Je crois que De Gaulle disait que la première école du commandement, c'est la culture générale. Bon, ça donne à penser. Et lui, dans son discours sur les quatre libertés, il citait donc un obiter dictum, donc une motivation non décisoire, d'un arrêt de 1762 de la Common Law, l'arrêt Vernon contre Bethel, selon lesquels, je cite, les hommes dans le besoin ne sont pas à proprement parler des hommes libres. Et donc, selon lui, la démocratie ne pouvait prospérer qu'entre des hommes libres. Eux seuls sont suffisamment attachés à la démocratie pour être prêts à la défendre, le cas échéant, au péril de leur vie. Et par conséquent, la justice sociale, faire en sorte que le pays ne soit pas composé de personnes dans le besoin, n'est pas un supplément, un luxe que la démocratie pourrait s'offrir, dans la pensée de Roosevelt, offrir à ses citoyens en période de vache grasse, mais elle est la condition même de l'existence et de la durabilité d'un ordre démocratique. Enfin, telle était la conception de Roosevelt que nous avons rappelée. L'autre argument avancé pour disqualifier ou minorer les droits économiques et sociaux a consisté à dire qu'à la différence des droits civils et politiques, qui seraient des droits résistance, ce serait le droit qu'on protège un individu contre l'empiétement par autrui sur un territoire qui est le sien, en revanche, les droits économiques et sociaux seraient des droits de créance dont la réalisation dépendrait en tout état de cause d'une intervention positive des États. Et cette idée a été si prégnante qu'elle a pris une forme en Europe institutionnelle dès 1950, avec le dualisme consacré au sein du Conseil de l'Europe, là je ne parle pas des institutions de l'Union européenne, mais du Conseil de l'Europe, entre d'un côté la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'autre la Charte sociale européenne. Donc actuellement, la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, elle s'appelle Cour des droits de l'homme, la Convention des droits de l'homme, mais il n'y a pas les droits économiques et sociaux, à part la liberté syndicale et les libertés collectives. Donc cette division, les Britanniques ont joué un rôle important dans cette affaire, enfin je n'ai pas le temps de le rappeler. Donc ça a opéré un vrai déclassement des droits de la seconde génération, mais ce déclassement est en réalité de nature politique et idéologique et ne répond à aucune nécessité juridique. Je vais en prendre un seul exemple. On dit classiquement le droit de propriété, ça... c'est des droits de première génération, donc c'est un droit résistance. Donc il n'y a pas besoin d'une intervention positive de l'État pour le réaliser, il faut juste que l'État vous protège contre des empiétements et le droit vous permette aussi de protéger contre d'éventuelles expropriations, etc. Mais si vous réfléchissez au statut actuel d'une forme majeure de droit de propriété dans l'économie contemporaine, qui est la propriété intellectuelle, les brevets et la propriété intellectuelle. Les accords signés à Marrakech, donc dans le cadre de la création de l'OMC, il y a eu des accords particuliers qui s'appellent les accords TRIPS en anglais, qui est un accord sur la protection des droits de propriété intellectuelle dans le monde entier. Eh bien, ces accords exigent de la part des États, tous les États du monde qui les ont ratifiés, qu'ils veillent à la perception auprès des utilisateurs de n'importe quel ordinateur, par exemple, des droits qui reviennent aux concepteurs, aux propriétaires, ou sur les médicaments, par exemple. Vous avez le laboratoire qui a conçu un médicament à une propriété intellectuelle, donc si on négocie, si on vend des médicaments, il faut que le laboratoire qui l'a inventé, tant que dure son droit de propriété, perçoive sa dîme sur la vente de chaque médicament, de chaque ordinateur. Donc il y a un système de prélèvement à l'échelle mondiale qui doit être opéré. Du point de vue de la structure juridique, ce système ne diffère en rien d'un système de prélèvement des cotisations sociales. Donc on est dans le même type de cas de figure. C'est-à-dire pour la réalisation du droit de propriété intellectuelle, il faut mettre en place un dispositif de prélèvement généralisé qui est prévu dans les accords TRIPS. Donc sur cet exemple, on voit bien que l'opposition qui serait faite dans le traitement du droit de propriété d'une part et des droits sociaux d'autre part ne tient pas. En réalité... l'opposition entre ces deux générations de droits doit son succès au fait qu'elle convient aussi bien aux partisans de l'individualisme ultra-libéral qu'à ceux de l'étatisme, qu'ils soient réformistes ou révolutionnaires. Les premiers voient dans la société un agrégat de monades contractantes et contestent par principe la légitimité même des droits sociaux qui empiètent, selon eux, indûment sur le domaine de la morale et de la charité privée, et ne peuvent que perturber l'ordre spontané du marché. C'est une analyse que vous connaissez bien. Les seconds, donc les partisans d'un étatisme qui soit réformiste ou révolutionnaire, ils admettent, eux, la légitimité des droits sociaux, mais voient dans l'État l'instrument exclusif de leur réalisation et de réalisation de la justice sociale, qui serait seul à même de faire plier les égoïsmes individuels. Et dès lors, le débat sur la mise en œuvre des droits sociaux se trouve posé à l'heure actuelle en termes de périmètre de l'intervention de l'État. Est-ce qu'il faut un État gendarme ou un État providence ? Or, si on revient au texte de l'immédiate après-guerre, je pense que c'est la Déclaration universelle, la Déclaration de Philadelphie, etc. Il ne fait pas de doute que dans l'esprit de rule of law, qui était la source première d'inspiration de la DUDH, c'est cette notion qui est la pierre angulaire de l'ordre international, et ce n'est pas la notion d'état de droit. La notion d'état de droit est une notion d'origine allemande, où l'État est effectivement la figure centrale. Mais les discours de Roosevelt sont inspirés par l'esprit de la rule of law, de même que les dispositions de la DUDH. Or, ils ne font pas de l'État l'unique responsable de la mise en œuvre des droits économiques et sociaux. L'État y figure, d'ailleurs de façon très discrète, si vous reprenez la Déclaration universelle, on le trouve comme un garant du respect des droits de l'homme, sans distinction de type de droit, mais il n'en est le débiteur, dans la Déclaration universelle, qu'au même titre, je cite, « que tous les individus et tous les organes de la société », fin de citation, « qui doivent en assurer l'application par des mesures progressives, l'application universelle et effective ». Donc si on reprend ces textes, ils sont très modernes, c'est-à-dire la mise en œuvre des droits économiques et sociaux. La fonction de l'État est une fonction de garant à l'échelle internationale. Mais de ces droits découlent des obligations pour, je le répète, tous les individus et tous les organes de la société. Ça s'applique en particulier aux entreprises. C'est-à-dire que les entreprises, elles aussi, doivent observer. Or, actuellement, nous n'avons pas le dispositif juridique qui permettrait, à l'échelle internationale, de rendre l'observation de ces droits obligatoire. On fait comme si ces droits ne pouvaient concerner que les États, alors qu'il est plus évident que jamais qu'elles concernent aussi d'autres acteurs juridiques que les États, à commencer par les sociétés transnationales. Donc nous verrons, d'ailleurs, peut-être à la fin de ce cours, en tout cas la semaine prochaine, comment les entreprises, je vais vous parler de Volkswagen, comment s'arrangent de ce problème. Quoi qu'il en soit de ce débat doctrinal, la mise en œuvre de la justice sociale ne peut se réduire à une distribution de droits individuels. L'idée de justice, c'est autre chose que simplement distribuer des droits comme on distribue les armes, et ensuite en disant, on va voir qui survit. Ça requiert des institutions qui incarnent la justice et qui soudent une communauté politique. Et donc une société juste, qu'elle soit formée d'individus ou d'États, ne se résume pas au slogan aujourd'hui si répandu du vivre ensemble, une formule qui a un succès extraordinaire actuellement, mais il faut méditer sur ce point la question posée à propos du cas français par Pierre Lejean dans son dernier ouvrage qui s'intitule « Fantôme de l'État » que je ne saurais trop vous recommander. Il pose cette question. La France a-t-elle donc cessé d'être une nation pour n'être plus qu'un vivre ensemble formule à la mode dont on méconnaît la note bétaillère. En effet, aux yeux d'un éleveur, surtout d'un éleveur industriel, le bétail vit ensemble, comme vivent ensemble les occupants d'une même rame de métro, c'est-à-dire comme une juxtaposition d'êtres vivants, côte à côte, en essayant de ne pas trop se marcher sur les pieds, si possible. Mais cette réduction de la sociabilité humaine à un vivre ensemble est en réalité un sous-produit de l'économisme et de la gouvernance par les nombres. C'est un trait que notait, il y a bientôt un siècle, un auteur, pour lequel je ne suis pas le seul, mais j'ai de l'admiration très grande pour son style et son esprit, qui était Chesterton. Et voilà ce que écrivait Chesterton. Les vaches, disait-il, vivent en pur économiste, et rien ne nous indique qu'elles se préoccupent d'autre chose que de brouter. Les moutons, comme les chèvres, demeurent pareillement au plan purement économique. C'est la raison sans doute pour laquelle nous trouvons peu de moutons parmi les héros et les fondateurs d'empires, et les chèvres elles-mêmes, quoique quadrupèdes plus remuants, attendent encore leur Plutarque. Loin d'admettre que l'économie est la clé de l'histoire humaine, nous dirons que l'histoire commence là où s'arrêtent les impulsions des chèvres, des moutons et des vaches. Ça fait écho à cette histoire de vivre ensemble. Faire société, c'est ça que ça veut dire, faire société, c'est autre chose que simplement vivre ensemble. Et au regard de l'histoire du droit, le succès du vivre ensemble dans la rhétorique politique est l'un des symptômes de la perte de compréhension de ce qu'est une société humaine et de sa réduction à une collection d'individus. Dans son sens premier, là on va refaire une projection historique, dans son sens premier, qui, comme presque toujours, j'allais dire, le sens premier des notions de base, c'est celui du droit civil. La société requiert ce qu'on nomme l'affectio societatis, en latin. Cette notion apparaît dans le Digeste. Alors, le Digeste, tout le monde voit ce que c'est ce qu'en grec on appelle les pandectes, donc c'est une partie de cette énorme compilation du droit romain commandée par Justinien autour des années 530 et qui va être redécouverte par les juristes médiévaux et recyclée pour faire le droit moderne. Et c'est là qu'apparaît la notion de société. Et elle apparaît immédiatement liée à celle d'affectio societatis. Donc, le Digeste est, une partie du corpus iuris civilis, à côté des instituts, des nouvelles, etc. Et c'est une compilation de réponses de grands juristes consultes à un certain nombre de problèmes. Et là, le problème que traite ce passage, c'est de savoir à quelles conditions on a une action pro-socio. Dans la première année de cours, j'avais expliqué ce système des actions typiques du droit romain. Bon, à quelles conditions on peut saisir un juge sur une base formulaire donnée. Donc là, c'est l'action pro-socio. C'est une action en tant qu'associé. Bon. Eh bien, pour que vous ayez une telle action, il faut qu'il y ait une société, dit le juriste. C'est pas mal. Une chose, en effet, peut être commune sans société, notamment lorsqu'une communauté advient sans affectio societatis entre les parties. Par exemple, lorsque une chose est léguée à deux personnes, elle se retrouve en indivision, l'affection n'est pas nécessairement là. Bon. Ou achetée par elle à deux, ou si une donation, une hérédité est transmise, ou si nous achetons séparément de ces personnes sans être associés. Donc, vous avez ici ce critère de l'affectio societatis qui a couru tout au long de l'histoire du droit et qu'on retrouve aujourd'hui, dans le code, dans la définition du contrat de société, du code civil, l'article 1832. Bon, c'est, là aussi, il faudrait du temps pour en faire une glose, c'est extrêmement intéressant à relire. Il est question ici du contrat de société. On ne parle pas de la société encore comme cette espèce de méga-objet. Ça, c'est une invention du 19e. Jusqu'au 18e, les sociétés, ça désigne principalement l'association volontaire d'un certain nombre de personnes. Bon. Alors, qu'est-ce qu'une société ? Cette société n'est pas nécessairement à but commercial dans la définition du Code civil. C'est la société civile. D'abord, premier mot, elle est instituée. Donc, la notion de société est immédiatement liée à la notion d'institution. Pour qu'il y ait société, il faut institution. C'est un couple indissociable. Donc, par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat, bon, on est dans le cadre de société civile, d'affecter à une entreprise commune, donc il y a un horizon commun. Donc, pour faire société, il faut une institution, il faut ensuite un projet commun. On cherche à atteindre, en mettant nos biens, notre industrie, c'est-à-dire notre industrie, c'est notre travail, en commun, on va faire une entreprise commune et ensuite on va profiter ensemble, on va partager. Bon, on va partager le bénéfice, profiter de l'économie qui pourra en résulter et on devra payer notre part de l'aspect négatif de cette entreprise. Et l'article 133 souligne cette notion d'intérêt commun. Là, vous voyez, vous avez là, dans le Code civil, tous les éléments de base qui sont indispensables pour penser la notion de société. Or, depuis un siècle et demi, le concept de société et ses multiples dérivés, alors le dernier à la mode, c'est sociétal, parce que le mot social fait sale un peu maintenant, donc on dit sociétal, mais il y a sociologie, socio-économisme, etc., socialisme. Donc, ce mot a connu une fortune si extraordinaire que l'on peine aujourd'hui à désigner autrement ce qui attache la vie de tout homme à celle de ses semblables. On a beaucoup de mal à se demander, mais comment ils faisaient au XVIIe siècle ? Ils n'employaient pas le mot société. Alors, On disait le peuple de Dieu, on disait, il y avait d'autres façons, la Houma, mais il n'y avait pas ce mot société qui a acquis une dimension centrale à partir des progrès de la statistique dans les conditions que nous avons étudiées il y a 3 ans. C'est-à-dire à partir du moment où on a pu penser cet ensemble des êtres humains comme un tout observable, mesurable. C'est la notion de société naît, doit son succès à partir de ce moment-là, et c'est à partir de ce moment-là aussi que naît la sociologie et son projet d'étudier sur le modèle des sciences de la nature les rapports entre les hommes en étudiant les faits sociaux comme des choses selon la célèbre formule de Durkheim. Et la notion de société est depuis lors l'un des concepts fondamentaux de la sociologie, notamment au travers l'œuvre de, il a une bonne tête en plus, je trouve, de Tenis, qui est le premier à faire une distinction qui demeure une distinction très importante pour beaucoup d'auteurs en sociologie, entre la communauté, Gemeinschaft, et la société, Gesellschaft. La différence entre les deux, c'est que les communautés sont des formes d'organisation sociale héritées qui s'imposent à nous. Bon, une communauté familiale, vous ne choisissez pas vos frères et sœurs, ni vos parents, j'allais dire même vos parents, vos enfants, on a beau maintenant essayer de les choisir sur catalogue, avec, quand même, c'est... Bon. Puis d'autre part, les sociétés qui procèdent au contraire de la libre association des hommes. Et cette terminologie correspond en fait assez remarquablement à celle du digeste que nous venons d'évoquer. Elle a irrigué le vocabulaire politique, non sans certaines confusions, comme le montrent les débats contemporains sur le communautarisme. Mais je ne vais pas m'engager sur ce terrain délicat. Et donc, ça c'est la définition du Code civil, c'est celle de la société du droit civil, mais plus encore que cette société du droit civil, une société politique, qu'elle soit nationale ou internationale, requiert donc une certaine affectio societatis, c'est-à-dire l'attachement de ses membres à un destin commun fondé sur une même représentation des droits et devoirs de chacun, c'est-à-dire sur une même représentation de la justice. Parce que la distribution des droits et devoirs de chacun dans un tel ensemble, c'est ce qu'on appelle la justice. Je sais que le mot justice est suspect et qu'on parle aujourd'hui plus volontiers des valeurs de la République. Mais c'est bien la justice de l'ordre républicain que renvoie ce vocabulaire passablement boursier. L'affectio societatis ainsi définie requiert des institutions qui tout à la fois donnent à voir, célèbrent et mettent en œuvre cette représentation partagée de la justice. Et c'est dans ce contexte qu'après la Première Guerre mondiale, on avait choisi d'appeler Société des Nations la première organisation internationale qui visait à assurer la paix et la coopération entre tous les pays de la planète. Et donc vous avez sur cette carte, alors en français c'est Société des Nations, en anglais c'était League. Vous voyez à quel point, enfin le succès quand même très limité de la reconnaissance de cette société dans l'entre-deux-guerres, puisque beaucoup de pays sont restés à l'écart, il y a ceux qui étaient rentrés et qui sont sortis. Donc, il est clair que la Société des Nations a été un échec. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de nouvelles institutions ont été créées, à côté de l'OIT, pour mettre en œuvre, justement, ces principes de justice à l'échelle internationale. Et j'avais juste donné la liste de ces nouvelles institutions. Il y a les organisations qui ont une mission sociale, soit générale, soit spécialisée, à l'échelle mondiale. Il y a des institutions continentales qui ont une vocation sociale. Et enfin, en troisième lieu, des institutions économiques et financières internationales ou continentales ayant une incidence sur la réalisation des droits sociaux. Ça fait 3 ensembles différents. Donc il y a des organisations sociales à l'échelle réellement internationale, les créations continentales du type, par exemple, je l'évoquais tout à l'heure, du Conseil de l'Europe, et puis des institutions économiques qui n'ont pas un but social, par exemple le Fonds monétaire international ou l'OMC, mais dont l'action va en réalité avoir un impact sur la réalisation des droits sociaux. Et nous avions entamé l'étude des organisations du premier type en commençant par l'ONU et son pacte international relatif aux droits économiques et sociaux et culturels, le PIDESC, qui est entré en vigueur en 1976. Et ce pacte vise à donner force juridique aux dispositions de la Déclaration universelle concernant donc les droits économiques et sociaux. Alors, nous n'avions pas étudié de plus près la liste que j'ai essayé de résumer ici des droits reconnus par le pacte. On y retrouve pour l'essentiel tous les droits consacrés dans la Déclaration universelle, mais avec des inflexions que vous pouvez noter. Par exemple, il y a la reconnaissance justement du droit de grève, aujourd'hui contesté, qui se trouve dans les libertés collectives, liberté à l'article 8 du pacte, ou bien l'accent mis sur la coopération internationale de façon encore plus forte que dans la Déclaration universelle. L'accent mis sur la coopération. Pour la réalisation de ces droits suppose non la compétition, mais la coopération. Ce pacte a été ratifié à ce jour par 164 États, ce qui n'est pas mal, mais comme je l'ai déjà dit, il a été complété en 2008 par un protocole facultatif qui ouvre en particulier, comme aux États, une procédure de plainte et d'enquête à l'encontre des États partis au PIDESC qui n'en respecteraient pas les dispositions. Autrement dit, ce protocole additionnel de 2008 a doté le pacte des dents, dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire une possibilité pour les victimes d'atteinte aux droits protégés par le pacte de saisir, d'engager une procédure quasi contentieuse qui lui permettra d'obtenir justice. Or, ce protocole a quant à lui été ratifié par très peu de pays. Il l'est aujourd'hui par la France depuis simplement, d'ailleurs, mars 2015, donc depuis quelques mois seulement. Alors, vous pourriez me dire, quelle est la portée de la ratification de ce type d'instrument juridique pour un pays comme la France, dont le droit interne consacre déjà tous ses droits et principes fondamentaux. Pendant longtemps, on pouvait penser, d'ailleurs c'est pourquoi la France a volontiers ratifié, que ça ne l'engageait à rien, puisqu'elle était déjà largement au-dessus des niveaux de protection garantis par ces instruments internationaux. Mais il en va différemment depuis que le législateur s'est laissé convaincre que l'un des principaux remèdes au chômage serait de réduire les protections jugées excessives du droit du travail et de réduire également le périmètre des mécanismes de sécurité et de protection sociale. Et dans ce contexte, qui est le nôtre depuis maintenant un certain nombre d'années, ces normes internationales opèrent comme des sortes de garde-fous, des points de butée, garde-fous au sens, comme vous l'entendez, comme vous voulez, ça évite une régression trop considérable de ces protections. Et la France elle-même a été ainsi rattrapée, elle est venue buter sur ce type de normes. La première fois que c'est arrivé, ça a été un choc un peu douloureux, également pour l'image internationale du pays. Ça a été en 2005, lorsque le Premier ministre de l'époque, M. de Villepin, a créé par ordonnance, alors c'était ses conseillers économiques qui lui avaient dit qu'ils avaient trouvé un remède miraculeux pour lutter contre le chômage, qui était un contrat nouvelle embauche qui pouvait être résiliable sans motif pendant une durée dite de consolidation de 2 ans. Et cette création était un des innombrables exemples de la gouvernance par les nombres en droit de l'emploi, puisque elle mettait en œuvre des modèles économiques qui prédisaient que ce contrat permettrait de nombreuses créations d'emplois. On est typiquement dans ce registre instrumental, non pas le droit comme le cadre stable dans lequel s'exerce la liberté économique, mais comme un instrument au service de calcul. Donc de savants économistes avaient calculé qu'avec ce dispositif, pendant un certain temps, on allait avoir des courbes qui allaient monter, etc. Alors, ces emplois n'ont pas été au rendez-vous d'ailleurs. ce qui a conduit les économistes qui avaient soutenu sa création à réclamer, sur la base de nouveaux modèles, parce que là on n'est jamais en peine de nouveaux modèles, des mesures plus radicales telles que aujourd'hui la suppression du SMIC ou le contrat unique. Donc si ça n'a pas marché, c'est qu'on n'y est pas allé assez fort. Mais ainsi conçu sur des modèles économiques, ce dispositif méconnaissait les exigences d'une convention ratifiée par la France, qui est la convention numéro 158. Et selon l'article 4 de cette convention, un salarié ne peut être licencié, je cite, « sans qu'il existe un motif valable de licenciement ». Et en cas de motif lié à sa conduite ou à son travail, il peut être prononcé avant qu'on lui ait offert la possibilité de se défendre. Voilà ce que prévoit la convention 158, que M. Gattaz appelle aujourd'hui à dénoncer, justement, en souvenir de cet épisode des contrats nouvelle embauche. Autrement dit, cette convention permet bien un licenciement sans motif, en latin on appelle ça ad nutum, pendant une période d'essai, mais à condition que la durée de cet essai soit, je cite encore la convention, fixée à l'avance et raisonnable. Bon, le Conseil d'État avait jugé que le contrat nouvelle embauche, ça ne posait pas de problème au regard de cette convention, mais tel n'a pas été l'avis la Cour de cassation, qui, dans un arrêt de 2008, puis du Conseil d'administration de l'OIT, qui se sont accordés pour considérer que la période de consolidation du contrat de nouvelle embauche n'était pas conforme aux dispositions de la Convention 158. Et le résultat, c'est que le contrat de nouvelle embauche a été abrogé en 2008. Donc là, vous avez un bon exemple, si vous voulez, si je dis gadget, vous allez dire, c'est pas gadget. Bon, on imagine un dispositif avec la meilleure volonté du monde. Il ne s'agit pas de douter de la bonne foi des gens qui pensent, ils pensent vraiment que ce genre de dispositif, on va diminuer les droits sociaux, ça va augmenter l'emploi. Je pense que beaucoup de gens le croient sincèrement, en dépit de, quand même, maintenant d'archives, parce que depuis la suppression de l'autorisation administrative de licenciement en 86, on a beaucoup fait dans ce sens avec toujours les mêmes échecs. Bon. Mais voilà, c'est conçu par des économistes qui ne sont pas très compétents en droit international et là, ils sont allés à la faute, donc ils ont une ligne jaune. Ce qui, politiquement, faisait très mauvais effet que la France se fasse pointer du doigt par le conseil d'administration de l'OIT. D'ailleurs, c'est depuis lors que la France est convertie au bienfait d'une vraie procédure juridictionnelle et qu'elle soutient, à juste titre, selon moi, l'idée de la création d'un tribunal. Eh bien, ce qui s'est passé pour cette Convention 158, ça pourrait se passer demain pour le PIDESC, pour le protocole additionnel des droits économiques et sociaux. Et celui-ci pourrait pareillement à l'avenir jouer un rôle de garde-fou contre les entreprises de déréglementation du droit du travail qui sont devenues fréquentes de la part du législateur français. En effet, depuis une trentaine d'années, ça c'était une formule de Gérard Lyon-Caen, je crois qu'il est le premier à l'avoir utilisée, je parle de Gérard Lyon-Caen, le droit du travail est présenté comme l'un des principaux obstacles à la réalisation du droit au travail. Et tous les gouvernements de tous bords se sont donc employés à réduire le périmètre de ce qu'on appelle en droit du travail l'ordre public social, c'est-à-dire de permettre aux entreprises de négocier des règles éventuellement moins avantageuses pour les salariés que les règles légales. Alors, vous le savez, c'est dans un tel exercice que s'est engagé au printemps dernier l'actuel gouvernement. Le 1er avril, qui est une date toujours riche d'espérance, le Premier ministre a demandé au président de la section sociale du Conseil d'État, M. Jean-Denis Cambrexel, de conduire une réflexion, alors je cite la lettre de mission, sur la place des accords collectifs en droit du travail et la construction des normes sociales. Et en précisant, donc je cite aussi, donc le Premier ministre dit au président de la section sociale, vous aurez profit à examiner les contributions des think tanks et publications à venir. Fin de citation. Donc, en avril, le Premier ministre dit au président de la section sociale, vous allez me remettre un rapport, mais vous vous inspirez de choses qui vont être publiées. Donc, il est au courant de ce qui va être publié. Et nous savons maintenant que les think tanks en question étaient les instituts Montaigne et Terra Nova, qui ont produit chacun leur rapport sur la réforme du Code du travail, et que nous savons aussi que la publication à venir était une déclaration des droits du travail publiée dans Le Monde au mois de juin par messieurs Robert Badinter et Antoine Yoncamp, et qui ensuite a été publiée sous la forme d'un petit ouvrage aux éditions Fayard. Nous retrouverons pour évoquer cette actualité française mercredi prochain, 11h. Merci de votre patience.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.